Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous continuons avec, par elle moniale, le message du Sacré-Cœur à travers Sainte Marguerite Marie et les visitandines, ainsi que les jésuites qui ont été associés de très près à l'œuvre de Sainte Marguerite Marie et des visitandines, pas seulement elle, mais cela a continué après, je vous le raconterai. Nous avons vu la dernière fois que ce message dénonce les désordres politiques, mais il dénonce surtout le manque d'amour de Jésus chez tous les chrétiens d'une façon générale et dans les communautés religieuses. Notamment chez les visitandines, cet ordre qui a été fondé par saint François de Sales au début du XVIIe siècle et qui paraît un ordre fervent, du moins sérieux, mais dont le cœur, en réalité, n'est pas attaché à notre Seigneur, à l'amour de Jésus, donc au Sacré-Cœur. Jésus va leur demander de se réformer, et cela va mettre 10 ans. Voici ce qui se passe le 20 novembre 1677. C'est la veille du renouvellement des vœux par tous les membres de la communauté, renouvellement annuel, pour la fête du 21 novembre, présentation de la Sainte Vierge au Temple. Sainte Marguerite Marie a reçu une demande du Sacré-Cœur de faire des observations à la communauté. Elle en a parlé à la Mère supérieure, qui donne son accord. Mais voilà, Marguerite Marie trouve la tâche bien difficile, elle qui est encore une jeune religieuse, de dire ce qui ne va pas dans la communauté. Elle sait que cela sera difficilement accepté. Malheureusement, la supérieure n'est pas présente, car elle est malade et alitée. On arrive donc à la fin de la journée, avant l'office des matines et le grand silence de la nuit. Personne ne s'attend à ce qui va suivre. La jeune sœur Marguerite Marie, soudain à genoux au milieu de ses sœurs, déclare de la part du Seigneur qu'il est indigné de leurs nombreux manques de charité fraternelle et qu'elle demande pénitence. Une partie des sœurs alors se scandalise, éclate en fureur, se précipite sur elle au mépris de toute règle religieuse et même de toute règle de bienséance. La moitié de la nuit se passe alors dans une sorte de folie collective, telle qu'on n'en avait jamais vu dans ce monastère. On traîne Sainte Marguerite Marie, on la somme de donner des explications. Au petit matin, les sœurs concernées comprennent enfin ce qu'elles ont fait, et elles s'inquiètent d'avoir pu céder à une telle folie. Or, la messe va commencer bientôt. Comment les communier et renouveler ses vœux après avoir fait de telles choses? Angoissée, toute une troupe vient supplier la supérieure de pouvoir se confesser avant la messe. Plusieurs confesseurs sont demandés et c'est une communauté apaisée, réconciliée, qui va pouvoir célébrer ce jour de fête. Le Seigneur fait alors connaître à Sainte Marguerite Marie que tout a été conforme à ses demandes et que cela portera des fruits pour toute la communauté. Pourtant, jusque-là, rien d'apparemment condamnable dans cette communauté. C'est bien organisé. On vit les temps de prière, on respecte la règle, chacune a sa fonction et l'assume, mais on n'a pas conscience de l'urgent besoin de conversion, car il manque l'essentiel, l'union des cœurs. La conversion, parce qu'on peut utiliser ce terme, la conversion de la communauté va prendre une dizaine d'années. En 1678, sœur Marguerite Marie priait avec beaucoup d'insistance pour tout son saint ordre, la visitation. mais la divine bonté se montrait inflexible à sa prière. Voici ce que lui dit le Christ. « Ne m'en parle plus, ils font la sourde oreille à ma voix et ils détruisent le fondement de l'édifice. Mais s'ils pensent de l'élever sur un étranger, je le renverserai. » Il y a là une scène magnifique que voit sainte Marguerite Marie. Il fallut que la Sainte Vierge plaida la cause de la Visitation. La lutte fut longue entre le divin Fils et la divine Mère. Enfin, celle-ci remporta la victoire. Mais le démon en devint si furieux que, en rageant de dépit, il éleva soudain un formidable tourbillon qui parut devoir renverser l'église du monastère. Et, rompant par deux fois les rideaux de la grille, Satan fit retentir ses paroles « C'est ainsi que je voulais renverser l'ordre de la Visitation s'il n'avait été soutenu par cette forte colonne contre laquelle je n'ai point de pouvoir. » Et notre Seigneur, en parlant de l'ordre de la Visitation, dit « Ma bien-aimée qui s'est souillée en poursuivant un étranger. » C'est une figure, bien entendu. Mais enfin, c'est la réalité. Ma fille, donne-leur ce dernier avertissement de ma part, que chacun pense à part soi, à faire profit de la grâce que je lui présente par l'entremise de ma sainte mère. Car celles qui n'en profiteront pas demeureront comme des arbres secs qui ne rapportent plus de fruits. La communauté finit par se convertir, et le 2 juillet 1688, une nouvelle vision. La Sainte Vierge apparaît à Marguerite Marie, à côté de notre Seigneur Jésus-Christ. Saint François de Sales est le père de la Colombière, un jésuite qui avait beaucoup soutenu Marguerite Marie. Et la Reine du Ciel encourage les visitandines, dans la vision toujours. « Venez, mes bien-aimées filles, approchez-vous. » Puis, montrant le cœur de son fils Jésus, « Voici ce précieux trésor qui vous est particulièrement manifesté par le tendre amour que mon fils a pour votre institut. Il veut avantager cette portion par-dessus les autres. Il faut que non seulement elles s'enrichissent, les visitandines, de ce trésor, mais encore qu'elles distribuent cette précieuse monnaie de tout leur pouvoir avec abondance, en tâchant d'en enrichir tout le monde sans crainte qu'il défaille, car plus elles en prendront, plus elles en trouveront. » Et la Sainte Vierge se tourne alors vers Claude de la Colombière et elle dit que les jésuites auront également une mission particulière pour faire rayonner la dévotion au cœur de Jésus. Quant à la conversion nécessaire des fidèles, l'apparition de notre Seigneur est beaucoup plus connue. Il me découvrit les merveilles de son amour et les secrets inexplicables de son sacré cœur. Mon divin cœur est si passionné d'amour pour les hommes. Il faut qu'il se manifeste à eux pour les enrichir de ses précieux trésors, pour les retirer de l'abîme de perdition. Il me découvrit jusqu'à quel excès son pur amour l'avait porté d'aimer les hommes dont il ne recevait que des ingratitudes et méconnaissances. S'il me rendait quelque retour d'amour, j'estimerais peu tout ce que j'ai fait pour eux, et je voudrais, s'il se pouvait, en faire encore à davantage. Mais ils n'ont que des froideurs et du rebut pour tous mes empressements à leur faire du bien. Mais du moins, donne-moi ce plaisir de suppléer à leur ingratitude autant que tu pourras en être capable. Le remède maintenant. Le remède, c'est la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Voici ce que dit sœur Marguerite Marie. Le Sacré-Cœur m'assure qu'il prenait un plaisir singulier à être honoré sous la figure de ce cœur de chair, dont il voulait que l'image fût exposée en public, afin de toucher par cet objet le cœur insensible des hommes. Me promettant qu'il répandrait avec abondance dans le cœur de tous ceux qui l'honoreraient tous les dons dont il est plein, et que, partout où cette image serait exposée pour y être singulièrement honorée, elle y attirerait toutes sortes de bénédictions. Premier remède donc, l'amour du cœur de Jésus. Mais ce n'est pas tout. Mon divin Sauveur m'a fait entendre que ceux qui travaillaient au salut des âmes auront l'art de toucher les cœurs les plus endurcis et travailleront avec un succès merveilleux s'ils sont pénétrés eux-mêmes d'une tendre dévotion au divin cœur. Voilà le grand remède, c'est l'apostolat de la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Malheureusement, le pape fera longtemps la sourde oreille. Il faudra que Marie Ledzinska, la femme de Louis XV, demande 3 fois et à 2 papes l'instauration de la fête du Sacré-Cœur pour que celle-ci lui soit accordée. Les évêques de Pologne le demanderont également, les évêques de France également, mais il leur faudra beaucoup d'insistance auprès du Saint-Siège pour obtenir ce que le Sacré-Cœur a demandé. Pendant ce temps-là, les prétendus philosophes des fausses lumières sont furieux. Les jansénistes, qui officiellement sont catholiques, mais qui en réalité sont un mélange de catholicisme, de protestantisme et de fausses lumières, les jansénistes vont agir et le Parlement de Paris va prohiber le culte du Sacré-Cœur. Du coup, c'en est trop, et le roi Louis XV va exiler le Parlement, même le supprimer. Malheureusement, il finira par le rappeler. Pendant ce temps, les visitandines agissent, bien qu'elles soient des religieuses cloîtrées. Elles prient, elles écrivent beaucoup de lettres, et elles soutiennent les jésuites. Et les jésuites, eux, sont à l'extérieur du cloître, évidemment, puisqu'ils sont dans l'apostolat, et les jésuites vont faire beaucoup, ils vont prêcher l'amour du Sacré-Cœur. Une œuvre dédiée au Sacré-Cœur sera fondée à Versailles, dans l'église paroissiale, par Marie Ledzinska. C'est intéressant ça, dans l'église paroissiale, parce que cela ne s'adresse pas que à la cour, et surtout, cela relie la cour à tous les Français. Alors c'est un des drames justement qui sera la cause de la Révolution française, c'est que petit à petit la royauté s'est séparée des Français. C'est toujours la même chose, la disparition de l'amitié. Vous l'avez remarqué, le manque d'amitié dans la communauté, eh bien il y a un manque d'amitié entre le roi et ses sujets. Depuis Louis XIII, avec l'absolutisme royal, Richelieu, Mazarin ont coupé le roi de son peuple. Les jésuites vont faire beaucoup. Le bienheureux Claude de la Colombière ira prêcher l'amour du cœur de Jésus jusqu'en Angleterre. Quoique l'Angleterre soit protestante, il y avait une reine catholique et un accord diplomatique avait exigé que la reine ait son aumônier personnel. Ce fut Claude de la Colombière qui fut choisi et qui ne se gêna pas pour prêcher l'amour du Sacré-Cœur. Cela rendit les protestants furieux. Ils mirent Claude de la Colombière en prison, et quand il en sortit, il était trop malade et il en mourut. Et puis ils exilèrent la reine, après avoir massacré 10 autres jésuites et accompli des grandes persécutions dans leur royaume. Louis XVI avait évidemment connaissance de la demande faite à Louis XIV. On le sait parce qu'il reprend dans une consécration qu'il fait de soi-même, de sa famille et du royaume, il reprend tous les termes de la demande du Sacré-Cœur à Paray le Monial. Malheureusement, il fera cette consécration tard, en 1790, alors qu'il est déjà à moitié prisonnier. Il sera obligé de prétexter une promenade pour se rendre à Notre-Dame de Paris le jour anniversaire de la consécration de la France à la Très-Sainte Vierge par Louis XIII. Puis il renouvelle cette consécration en 1792 dans la prison du Temple, toujours en présence de la famille royale. il consacre sa personne, sa famille et son royaume. La dévotion au Sacré-Cœur va avancer malgré tout. Ainsi, on retrouve l'insigne du Sacré-Cœur sur les poitrines des Vendéens. On attribue souvent à l'influence de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort le sursaut vendéen, mais c'est aussi en grande partie à Parel Monial qu'il faut l'attribuer. La dévotion a été prêchée dans tout l'Ouest et elle y a été fort bien reçue et mise en œuvre en application. Et lorsque Catelineau s'engage, c'est un insigne du Sacré-Cœur qu'il met sur sa poitrine. Il y eut un message pour Louis XVIII, car le Sacré-Cœur va continuer à faire des révélations à plusieurs visitandines. Cela n'est très peu connu. Ainsi, un message s'adresse à Louis XVIII. Il n'y a pas besoin de la même solennité, car il connaît le message. Mais le Sacré-Cœur le supplie de faire ce qu'il a demandé. Louis XVIII n'en tient pas compte. Malgré tout, au cours du XIXe siècle, les deux tiers des diocèses sont consacrés au Sacré-Cœur par leur évêque. Henri V, comte de Chambord, qui était le roi légitime, fut élevé grâce aux jésuites dans la dévotion au Sacré-Cœur, et lui voulait restaurer l'amitié entre le roi et le peuple et l'amitié à l'intérieur du peuple. On le voit avec la lettre qu'il écrivit aux ouvriers. Puis l'épiscopat français insiste très fortement auprès de Pie IX et obtient l'extension de la fête du Sacré-Cœur à toute l'Église. Léon XIII va finir par consacrer le monde entier au Sacré-Cœur, ce qui est un acte très fort parce qu'il consacre non seulement les catholiques qui dépendent de lui, mais tous les hommes, y compris non catholiques et non baptisés, parce que même s'ils ne dépendent pas de l'Église et du pape, ils dépendent du Sacré-Cœur. Pendant la guerre de 70, les zouaves pontificaux combattent au nom du Sacré-Cœur, et puis on arrive à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, qui est construite après la guerre de 1870 pour demander pardon à Dieu de toutes les fautes du peuple français. Ces fautes qui se sont manifestées durant la guerre de 70 et après avec la Commune, non seulement les communards qui firent la révolution, mais la répression qui fut atroce. C'est une loi du 24 juillet 1873 qui déclare la basilique du Sacré-Cœur comme d'intérêt national. Les députés ne se mouillent pas trop, ça reste une œuvre privée d'intérêt national. Elle devait être consacrée à la guerre de 14, au début, juste au début en 14. À cause de la guerre de 14, elle sera consacrée en 1919. Et puis le Sacré-Cœur apparaît à Claire Ferchaud, une Vendéenne, pour lui donner comme message, répéter le message qu'il donna à Louis XIV et après ça à ses successeurs, que le Sacré-Cœur figure sur les drapeaux de la France. De fait, le Sacré-Cœur de Loublande sera distribué à des millions d'exemplaires, porté sur la poitrine des soldats, et bien que rien ne soit officiel, certainement il a protégé la France, car le Sacré-Cœur ne se laisse jamais vaincre en générosité. Je voulais vous parler de ce que nous pourrions faire, nous, aujourd'hui, et vous tous qui m'écoutez, pour le Sacré-Cœur, mais il est temps que j'arrête ce sermon. Ce sera donc pour la prochaine fois. En attendant, méditez bien ce message du Sacré-Cœur qui s'adresse à nous tous et demandez à la Sainte Vierge de vous rendre non seulement de bons fidèles, mais surtout de bons dévots. Dévot, ça veut dire dévoué. Dévoué, ça veut dire qu'il travaille au service des intérêts de son maître. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur douloureux et immaculé de Marie, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.